Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, dans Marché à thème, nous revenons sur le regain d'intérêt observé sur la classe d'actifs small et mid cap depuis quelques mois maintenant. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce mouvement? Comment être positionné pour la suite? L'analyse de Marion Cazal, gérante chez Montpensier Finance, au micro de Grégoire Favet dans l'émission Smart Bourse du 13 juin. On l'écoute.
Oui, alors c'est vrai que si on met entre parenthèses un peu les derniers jours de cotation, ça fait maintenant quasiment 3 mois qu'on ne sous-performe plus les large caps, ce qui est quand même une excellente nouvelle, parce que globalement, depuis 2018, ça va faire maintenant 5 ans, avec 2 années compliquées, 2018-2022, qu'on était en sous-performance versus les large caps. Donc ça, c'est le premier point. Quand on regarde un petit peu en plus depuis 2022, on a eu 2 poches qui ont extrêmement bien performé et qui a délaissé un peu les petites et moyennes valeurs. On a eu les large caps avec tout ce qui est Magnificent Seven, les granolas en Europe, et de l'autre côté du prisme, le private equity, sur lequel on est encore sur des niveaux de valorisation qui sont bien supérieurs aux small et mid cap. On a une vraie décote sur les small et mid cap cotés aujourd'hui par rapport au private equity, et on n'est pas vraiment sur des valorisations sur le private qui sont en train de baisser.
Je regarde de temps en temps l'indice Argus en France, on paye toujours autour de 9 fois l'EBITDA, je crois, dans le privé, enfin hors marché coté, par rapport à ce qui se fait.
Oui, on est sur des primes qui sont significatives. Ah ouais. Et quand on regarde la valorisation toujours sur le côté, sur les large caps, on est aujourd'hui, on n'a plus de primes, alors qu'historiquement, on en avait, ça c'est connu maintenant depuis un certain temps. Mais il y a quand même des points qui sont positifs dans le marché et qui, nous en tout cas, chez Montpensier, nous font dire que normalement, on devrait voir une surperformance des petites et moyennes valeurs. Le premier point, c'est les taux, puisqu'il faut. On n'a pas besoin forcément d'une baisse des taux pour avoir une surperformance des petites et moyennes valeurs, mais on a besoin d'une stabilité.
D'accord.
Voilà. Ça arrête de monter, quoi. Stabilisation des taux, ouais. Voilà, on l'a vu entre 2019 et 2021, ouais. Les taux étaient stables, ouais. Et les petites et moyennes valeurs ont surperformé.
Comprends.
Donc voilà. Donc là, on est plutôt à l'aise avec ce scénario au moins de stabilisation des taux. Le deuxième point, c'est les conditions économiques. On est sur une amélioration qui est lente, qui est progressive, mais qui est visible en Europe. Mmh. Donc ça, c'est également un point important. Et il faut savoir quand même que les petites et moyennes valeurs, c'est des sociétés qui affichent des croissances de BPA qui sont élevées. Quand on regarde aujourd'hui, alors ça dépend un petit peu des indices qu'on regarde, mais on va attendre une croissance de BPA sur 2024 entre 15 et 25% sur certains indices. Donc on est quand même sur des niveaux de croissance significatifs. Ouais. Et donc, on va nettement surperformer la croissance globale européenne.
Là, on retrouve une vraie croissance bénéficiaire supérieure à ce qu'on peut attendre. Exactement. Des grandes entreprises.
Exactement, d'accord. On est bien supérieur, et en plus on le voit bien, hein, sur la première partie de l'année, les résultats du T1 ont été quand même assez bons, hein, en général sur les petites et moyennes valeurs. Il y a eu quand même beaucoup de surprises à la hausse avec un taux qui était plus élevé que historiquement. Donc ça, ce sont des points positifs. Il y a d'autres points positifs, notamment ce sont les IPO, le phénomène d'IPO qui est en train de repartir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de belles IPO en Europe. Aujourd'hui, si on regarde un peu sur le T1, on a levé 5 milliards d'euros en Europe versus 10 milliards sur toute l'année 2023. Donc on est vraiment sur une accélération, et là au Q2, on a aussi des beaux dossiers qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est bien, ça fait un renouvellement de la cote, ça redonne de l'intérêt à la classe active. Et le dernier point, c'est la collecte.
Hein, la collecte, les flux.
Exactement. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu mois par mois, eh bien, la collecte est positive tous les mois depuis novembre 2023. Ouais. Donc ça, c'est quand même un point qui va permettre d'aider la classe d'actifs à surperformer dans les prochaines semaines.
Bon, des planètes qui se réalignent effectivement après des années, vous le notiez, hein, notamment en France, effectivement depuis 2018, c'est vraiment compliqué pour cet univers des petites capitalisations boursières. Comment est-ce que vous comptez en profiter en termes de gestion de portefeuille dans la stratégie que vous pilotez, Marion? Et donc, je le rappelle, qu'il y a une stratégie multithématique. Il y a le thème Better Life, le thème Lifestyle, le thème Smart Resources, et le thème digital impact que vous croisez dans cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques caractéristiques de ces 4 thématiques et comment vous vous positionnez ou comment elles sont positionnées pour profiter d'un momentum qui redevient et qui pourrait rester plus favorable au small cap?
Alors le point important, c'est déjà de dire que en fait les 4 grands axes d'investissement qu'on a choisis, ce sont des axes de croissance, puisqu'on est sur des marchés avec des vecteurs qui vont nous permettre de surperformer le marché. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et à l'intérieur de ces quatre grandes thématiques, on a identifié de manière un peu plus court terme, plus momentum, des dynamiques qui sont très différentes les unes des autres, mais qui vont permettre un momentum plus porteur pour les valeurs. Je vous donne plusieurs exemples dans les différentes thématiques. Tout d'abord, dans la thématique Better Life. Donc là, on se concentre sur la santé, le bien-être des individus. Il y a plusieurs dynamiques. Tout d'abord, la fin des disruptions post-Covid, hein, puisqu'on avait connu une explosion, puis le phénomène de déstockage. Et bien là, on est notamment dans la partie diagnostique en période de normalisation.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est un point important. Ça va
nettoyage de tous les effets Covid, quoi.
Voilà. On nettoie on repart sur des croissances organiques qui sont plus normalisées.
J'entends.
Ça, c'est déjà un point important. Ouais. Donc ça, le diagnostic, notamment, va en bénéficier. Deuxième point, les GLP-1. Alors, on ne peut pas investir sur Novo quand on est un gérant small et
medium. Oui, ça devient compliqué, là. Oui.
Mais en tout cas, on peut trouver des acteurs qui profitent de la croissance des GLP-1. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas une recommandation, mais dans le fond, on est actionnaire de Gerresheimer, qui est une société allemande qui est spécialisée dans tout ce qui est outillage, flaconnage et notamment dans tout ce qui est solutions injectables pour les GLP-1.
Donc les équipementiers du GLP-1. Quoi.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est une société qui va générer plus de 10% de croissance dans les prochaines
années. Et qui est accrochée à la croissance de Novo, la production de Novo, etc. Et
qui a un gros, oui, effectivement, qui est corrélé en partie, alors pas tout, bien sûr, mais en tout cas, qui a eu.
Un proxy en partie de ce que fait Novo.
Voilà.
D'accord.
Après, il y a plein d'autres exemples. Si on prend par exemple dans la partie smart resources, là on va se concentrer sur les énergies renouvelables et tout ce qui est efficacité énergétique. Il y a quand même un point positif sur les énergies renouvelables, hein. On avait été complètement délaissé avec la hausse des taux. Là, il y a eu l'OPA de Neoen, on a eu Encavis il y a quelques mois, donc on voit qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour les énergies renouvelables côté.
Et sur des beaux multiples, hein. Enfin, j'ai pas vu Encavis, mais Neoen, ça s'est payé 18 fois les EBITDA, je crois.
On est sur des multiples qui correspondent plus à ce qu'on voyait auparavant.
C'est ça.
Voilà, c'est clair. Mais donc ça c'est bien, ça redonne de l'intérêt à la thématique. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, par exemple, sur l'efficacité énergétique, donc on va se concentrer sur toutes les valeurs qui bénéficient, en fait, qui permettent une efficacité énergétique des bâtiments notamment, et on voit bien c'est corrélé forcément au cycle de la construction, et là on va retrouver un momentum plus porteur sur la construction. Alors on part de très très bas, hein, mais en tout cas on voit quand même qu'il va y avoir une amélioration progressive dans ce secteur là et toutes les sociétés qui ont de fait une exposition à la construction via l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments vont en profiter.
Avec aussi le kicker baisse des taux, on verra combien on a, etc. Mais tous ces marchés de construction immobilier, etc., seront évidemment très sensibles à la moindre baisse de taux et réglage de la politique de la BCE, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et après, dans les deux autres thématiques qu'on a, dans la thématique lifestyle, donc là, on est forcément investi sur toutes les valeurs qui profitent en fait des changements de mode de consommation. Et donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que là, on est sur un momentum un peu plus porteur sur la consommation. Ça redémarre. Les effets de déstockage touchent aussi à leur fin. Et on a quand même sur le marché des très belles valeurs en Europe, cotées, qui sont sur des multiples de valorisation, qui sont complètement déprimées. Que ce soit sur les articles de sport, que ce soit dans certains sous-segments. Je pense notamment à des acteurs. Alors effectivement, le déstockage a fait mal, mais je pense à un acteur comme Rémy Cointreau aujourd'hui.
Ouais.
Qui, alors forcément, il y a des petits des sujets qui impactent, hein, la Chine, etc.
Indépendant de la volonté de Rémy Cointreau, on va dire.
Exactement, mais aujourd'hui, on se retrouve à un niveau de cours qui est identique à 2017. Entre-temps, le BPA a été multiplié par 2 sur Rémy Cointreau. Donc effectivement, il peut y avoir encore des aléas et de la volatilité sur le titre, mais en tout cas, aujourd'hui, ça vaut à peine.
Il y a de la valeur.
Stock, voilà.
Ouais, hein.
Donc ça, c'est un point important. Donc on peut trouver des sociétés intéressantes aussi dans cette thématique-là.
Et l'aspect digital impact, comment est-ce que vous le traitez là justement à ce stade, Marion?
Eh bien, dans le digital impact, c'est simple, on se concentre vraiment sur tous les marchés qui sont de niche ou à forte croissance. C'est vraiment important puisque par exemple on va être exposé sur une société qui s'appelle Qt Group dans les logiciels qui malgré un environnement qui a été quand même un peu plus compliqué ces dernières années, arrive à dégager quand même 20% de croissance top line quasiment tous les ans, avec du levier opérationnel.
D'accord.
typiquement, c'est des sociétés qu'on aime bien avoir dans cette thématique-là. Et également, on est exposé sur la partie semi-conducteurs. Alors, on profite, il y a des acteurs en Europe qui profitent de l'intelligence artificielle, notamment dans les équipements. On a des équipementiers en Europe, alors il y a les très gros, mais il y a aussi des plus petits, notamment Besi semi-conducteur, qui va profiter à la fois du redressement du marché du PC et des smartphones, qu'on joue aussi par d'autres...
Renouvellement, c'est
exactement,
ça.
Exactement, mais également par l'intelligence artificielle avec tout ce qui est hybrid bonding, que ce soit dans la logique ou dans la mémoire un peu plus tard.
Marion Cazal, gérante chez Montpensier Finance, répondait le 13 juin au micro de Grégoire Farvet à ses questions sur l'attractivité renouvelée des small et mid-cap. Notre émission touche à sa fin. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Bourse, lundi à 17h.